Alors, où sommes-nous ce matin? Ben, nous sommes toujours, pour le moment, dans ce merveilleux jardin pendant tout le chapitre 3. Nous étions dans le jardin et nous y sommes encore les quelques versets qui nous restaient, de 20 à 24. Mais à la fin de notre chapitre 3, Adam et Ève ne seront plus dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin? Vous vous souvenez, Dieu avait créé l'homme, et puis il avait créé tout un environnement merveilleux, où il puisse avoir de bonnes activités, de s'occuper de la création, d'entretenir un jardin. Il lui avait donné une épouse pour combler ses derniers besoins, dont il avait besoin dans sa solitude. Et seulement, le serpent est intervenu, et on avait étudié tout ça en détail. Le serpent est arrivé à séduire Ève, qui elle-même a influencé Adam. Et les deux ont finalement désobéi et ont perdu leur innocence. A suivi une rencontre avec Dieu, qui a tout de même cherché sa création chérie. Et il y a eu un jugement de Dieu, une sanction rendue, et donc Adam devait revenir à la poussière. Ève, quant à elle, la terre avait été maudite à cause de lui, on avait vu ça, retourner à la poussière. Ève devait maintenant et désormais souffrir des grossesses, allait devenir difficile pour elle, et son mari allait avoir la première place dans le couple. On avait vu cela la semaine dernière en détail. S'il y a des personnes qui veulent voir les détails de tout ce qu'on avait vu, bon, il y a le site internet de l'église avec les messages qui se trouvent dessus. Alors nous allons lire maintenant du verset 20 au verset 24. Ce sera un petit peu l'épilogue de tout ce chapitre 3 que nous allons voir ce matin ensemble, terminer les derniers versets et faire un petit résumé, un petit peu, de tout ce que nous avons vu depuis le début, faire une petite synthèse, un petit bilan avant de quitter le jardin. C'est peut-être ce que Adam et Ève avaient fait eux aussi. Je ne suis pas du tout à la bonne page. Voilà. Donc ça s'est terminé la semaine dernière par ces paroles. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été créé, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La sanction que Dieu avait prononcée. Verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il le chassa d'Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà toute une période qui se clôture. Alors, on pourrait voir quelques préparatifs là pour ce qui sera pour Adam et Ève tout de même quelque part un nouveau départ, un nouveau commencement. Après leur aventure, après leur nudité, quand ils étaient couverts avec des feuilles, on voit que Adam donne à son épouse un nom propre. Jusqu'à présent, elle était appelée la femme, Isha, par rapport à l'homme, qui s'appelait Ish. Mais là, Adam va lui donner un nom propre, Ève, ce qui veut dire vivant ou vivante. C'est Ève, en effet, qui va avoir la responsabilité maintenant de transmettre la vie, puisque les hommes finiront leur vie dans la poussière. Le moyen de que la vie sur Terre et que les hommes se répandent sur toute la Terre, selon le plan initial de Dieu, ah ben ça va passer par la responsabilité de Ève, premièrement, la première maman. Elle qui avait méprisé le danger de la mort, lorsqu'elle avait écouté la voix du serpent, de peur que vous me mouriez. C'est ainsi qu'elle avait compris les paroles de Dieu, alors que Dieu avait dit, si vous mangez de l'arbre, vous mourrez certainement. Donc, Adam, on voit aussi son affection envers son épouse pour lui donner ce nom, ce beau nom de Ève, vivante. Elle qui allait maintenant connaître, dans un avenir plus ou moins lointain, l'amour. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Nous avons déjà parlé longuement de cette question de l'innocence et de cette question que les hommes, depuis, portent des vêtements, signe que la perte de l'innocence de Adam et Ève nous a touchés, nous aussi, ses enfants. Que ont pensé Adam et Ève lorsqu'ils ont revêtu ces vêtements de peau? Peut-être qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup mieux que les vêtements de feuilles, qu'ils étaient beaucoup mieux équipés de cette façon-là. Peut-être aussi ils ont reconnu le pelage. Il n'y a pas de précision là-dessus. Et peut-être qu'ils ont cherché des yeux, des animaux qu'ils connaissaient bien, mais où est le mouton? Je ne le vois plus. Verset suivant, verset 22. Voici l'Éternel, voici l'homme, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre de vie au milieu du jardin. On voit également le « nous » qui revient à ce niveau-là. On avait parlé du « nous » qui évoquait la Trinité, un Dieu en trois personnes qui s'exprime également ici. La parfaite unité de Dieu autour de cette décision que de renvoyer l'homme du jardin. Il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Il y a certainement une différence entre l'homme et Dieu, c'est que Dieu ne connaît pas, ne pratique pas le mal. L'apôtre Jacques est formel là-dessus. Dieu ne peut être tenté par le mal, écrit-il. Il ne peut être, et lui-même, il ne tente personne. Toute grâce excellente, tout don parfait, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est, tout ce que nous recevons et que nous jouissons, vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est la différence fondamentale entre Dieu et nous, c'est que Dieu est saint et il n'y a pas d'obscurité en lui, il n'y a pas l'ombre, la trace d'un péché. Mais on l'a vu avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté, c'était la dissimulation. C'était les problèmes relationnels entre eux, c'était des difficultés, le mal était arrivé dans l'humanité. On a la belle image de, on évoquait le cas de Marie-Rose tout à l'heure, qui était malade, qui a un cancer. Les cellules cancéreuses C'est ce que fait, hein, ces cellules qui perdent leur fonction complètement. Et le mal et le péché, c'est un petit peu comme ça qu'il va travailler. Et qu'il travaille, c'est qu'il détraque tout, il pervertit toute chose. Et tout ce qui était bon et droit va être devenir de travers et finalement nous conduire à la mort. Au verset suivant, le verset 23, l'Éternel le chassa du jardin d'Éden, est-il écrit dans la version seconde. Ce premier mot, c'est plutôt le mit hors du jardin d'Éden. C'est deux mots différents qui ont été traduits par le même, le chassa, mais l'Éternel mit. Le mit loin du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris, et c'est ainsi qu'il le chassa. Impossibilité, dans tous les cas, pour Adam et Ève de revenir en arrière. L'accès au jardin d'Éden est définitivement barré. Donc des anges ici qui ont la charge d'en fermer l'entrée. C'est ainsi que se termine ce chapitre 3. Quelques réflexions maintenant, je souhaiterais partager avec vous. Où on dit souvent que Dieu est un Dieu d'amour. Et pourquoi cette sanction? Où voyons-nous la bonté de Dieu dans ce passage? On le voit, on en a parlé la semaine dernière, dans ce que la malédiction est tombée sur le serpent. Sur le serpent, seulement l'homme et la femme n'ont pas été maudits, n'ont pas été maudits par Dieu. La terre, par contre, à cause de la désobéissance d'Adam, a été, elle, maudite. Elle n'allait plus faire repousser de bonnes choses, mais elle allait faire repousser les épines, les ronces, les mauvaises herbes, tout ce qui est déplaisant. L'apôtre Paul nous renseigne un petit peu plus sur cette malédiction. Il écrit ceci aux Romains, chapitre 8, verset 20. « La création a été soumise à la vanité, à un cercle vide. » Non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, c'est-à-dire c'est Dieu. La création a l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, à ce stade, je vais faire une petite illustration avec votre permission. Nous avions Dieu en haut, et puis il y avait Adam et Ève, et puis il y avait ici la création, et la création était sous la responsabilité, sous la domination d'Adam et de Ève, et puis parmi cette création, donc, il y avait le petit serpent. Et donc, le serpent s'est adressé à Ève, et donc on avait vu la dernière fois, Ève qui a influencé Adam, et les deux ont préféré écouter ce que disait le serpent, qui était normalement sous la création, sous leur responsabilité, plutôt que d'écouter Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, il y a eu la chute. Et puis, Adam et Ève se sont trouvés en dessous. Ils ont perdu leur
la position privilégiée qu'ils avaient dans leur relation avec Dieu. Ils ont été souillés, ils ont été séparés lorsqu'ils ont désobéi. Alors, ce que Dieu a fait, Dieu, il a maudit la création, il l'a fait descendre en bas. Il a maudit la terre, les animaux eux aussi allaient souffrir, ils vont avoir tout un cercle d'aberration. Et Dieu va faire ça. Voilà, Adam et Ève. Et puis, la création. Donc, on ne peut essayer d'imaginer Adam et Ève quand ils étaient avec leurs habits de feuilles, lorsqu'ils se cachaient dans le jardin. Ils avaient perdu complètement leur dignité. Entourés au milieu d'une création parfaite, ils faisaient tâche, comme on dit. Ils faisaient tâche. Comment auraient-ils pu survivre? Quelle aurait été quand on n'est pas à sa place, vous savez, quelque part, on le sent et on le ressent. Et ils n'étaient plus souillés par le péché, ils n'étaient plus à leur place dans le jardin d'Éden. Alors, dans sa souveraineté, Dieu a décidé, par solidarité, de descendre toute la création et de maudire le sol. Donc c'est un acte d'amour que Dieu a fait. Il a sacrifié en quelque part toute sa création, les animaux que nous voyons et tout ce que nous voyons autour de nous, nous observons dans la nature qui n'est pas bon, tout ce qui se passe entre les animaux, tout ce qui est pas beau. Il faut savoir que c'est à cause de la désobéissance de l'homme. Mais un jour, la parole de Dieu est formelle. Lorsque l'homme sera restauré, la création, elle aussi, sera restaurée. Et elle attend, elle aussi, ce moment-là. Nous voyons également la bonté et l'amour de Dieu par rapport à ce vêtement qu'il a donné à l'homme et à la femme, un vêtement de peau. Cela évoque un animal mis à mort. Si on voit les choses de cette façon-là, le premier qui a connu la mort, c'est pas Adam et Ève, mais c'est un animal innocent qui, le premier, a connu la mort pour pouvoir vêtir Adam et Ève. Donc, cela évoque l'œuvre de Jésus-Christ dont on a parlé tout à l'heure au repas du Seigneur. Le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, a désigné Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui allait enlever le péché du monde, l'innocent qui allait être mis à mort pour racheter le coupable. Et donc, nous avons également, à travers ce vêtement qui a été donné à Adam et Ève, vêtement complètement immérité, une preuve de la bonté de Dieu, de ses bons soins pour l'homme malgré ce qu'il avait fait. Pourquoi était-il important donc que l'homme soit chassé du jardin? Il y avait une décision qui avait été, un arrêté qui avait été fixé par Dieu. Si tu manges de l'arbre interdit, tu mourras. Et cela ne pouvait pas ne pas être exécuté. Or, dans le paradis de Dieu, on ne connaissait pas la mort. Également, cette difficulté que Adam et Ève auraient eu en vivant au milieu d'une perfection, ils auraient été journellement tourmentés par le regret de leur faute. Lorsqu'on est entouré par quelque chose de beau
et lorsque soi-même on fait tâche, ah ben ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Quel bilan nous pouvons faire? Donc, je vais revenir un petit peu sur ce début de livre de la Genèse. Qu'avons-nous appris sur Dieu? Qu'avons-nous appris sur nous-mêmes lorsqu'on a un passage de la Bible devant nous? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Et la Bible veut à la fois nous apprendre des choses sur Dieu et nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Alors, on l'a vu, on en a parlé tout au début, quand on a vu ce Dieu créateur qui évoquait la toute-puissance de Dieu en 6 jours créer une merveilleuse création. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut par rapport aux 6 jours. Est-ce que c'était 6 jours? Est-ce que c'était davantage? Ce qui est certain, c'est que la parole de Dieu est en opposition totale avec la théorie de l'évolution. Hein. Et on avait remarqué les fruits que portait la théorie de l'évolution et les fruits que porte la création de Dieu. La création de Dieu favorise la fraternité entre tous les hommes, tous issus d'un seul, par la volonté de Dieu, alors que la théorie de l'évolution va mettre des différences entre les hommes et justifier que le fort tyrannise le faible, que le fort piétine le faible. On avait vu que Dieu était le créateur du repos également, que ce repos s'inscrivait après l'activité. 6 jours d'activité, 1 jour de repos, et le repos est tellement bon après l'activité. Combien c'est bon de se reposer. C'est un don de Dieu, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a apprécié lui aussi le repos. Et il veut nous entraîner dans son repos. Le jour du repos, il n'est pas marqué de faim dans la Bible, comme s'il avait été troublé ce jour du repos. Effectivement, on a vu qu'avec la chute de Adam et de Ève, il y avait un grand problème qui s'est passé dans la création de Dieu. En tout cas, nous avons appris que Dieu était également le créateur de l'homme, de la femme, et qu'il les avait créés à sa ressemblance, à son image, et que nous sommes porteurs de l'image de Dieu. On a vu que Dieu ne rend pas compte de toutes ses décisions. Il n'avait rien dit pourquoi il y avait cet arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal au milieu du jardin qu'il ne fallait pas manger. Dieu n'a pas rendu compte de cela, c'était ainsi. Et Dieu ne rend pas compte de toutes ses décisions. On a vu et appris également que Dieu appelle, il a appelé Adam, il cherche l'homme qui est loin de lui. Dieu appelle et Dieu nous appelle certainement, peut-être aussi aujourd'hui. C'est un Dieu créateur qui juge et qui sanctionne également. On a appris ça de lui. Il a toute l'autorité, le pouvoir pour juger, pour sanctionner. Et ses jugements sont sains, justes, sans appel. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il n'y a pas de procédure d'appel. Il n'y a pas de peser le pour et le contre pour prendre une bonne décision. Les jugements de Dieu sont sains et acceptés. On a appris des choses également sur nous-mêmes. La grande joie de découvrir qu'on était au centre du plan créateur de Dieu, créé avec soin, formé à partir de rien, de la poussière. Dieu va faire une merveilleuse création que nous sommes. On a vu également qu'on était créés comme des êtres sociaux, qui ne devaient pas être seuls. La solitude n'était pas bonne pour nous. On a longuement parlé de cela. On a vu que la femme avait été créée comme réponse à un besoin de l'homme, que la théorie du genre qui fleurit actuellement n'a rien à voir avec le plan de Dieu. On a également remarqué que le mari et la femme étaient même chers. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et on avait tirer des conclusions pratiques de cela. On avait vu que l'homosexualité, le libertinage, la prostitution, l'adultère, c'était pas dans ce que Dieu prévoyait. Par contre, la chasteté avant le mariage, la monogamie, la souveraineté du couple, l'homme quittera son père et sa mère, la souveraineté du couple, tout ça, ça allait plutôt dans le sens de ce verset et des commentaires qu'en avait fait Jésus-Christ lui-même et l'apôtre Paul. Et également, on apprend que l'homme est le premier responsable dans le couple. Attention également, qu'on apprend qu'il faut faire attention au tentateur, au séducteur qui est là, au désir de puissance qu'avait eu Ève, vous serez comme Dieu, au désir d'autonomie, de se séparer de Dieu, de vouloir être quelque chose indépendamment de lui, de le braver en désobéissant à ses commandements. Sommes poussière et reviendrons à la poussière. Nous ne sommes rien sans Dieu. Il nous a tirés à partir de rien. Et on en a pleinement conscience lorsque nous considérons toutes les personnes qui ont disparu et qui sont revenues poussière. Et on apprend également que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et donc on peut en déduire que nous aussi, nous serons jugés un jour, nous aussi, nous comparaîtrons devant Dieu. Adam a été chassé du jardin d'Éden. Je pense qu'il avait accepté, quand on voit le texte, et la suite du chapitre 4. Il avait quelque part accepté la sanction divine sur lui, et c'est une bonne chose, je pense, d'accepter lorsque Dieu décide quelque chose par rapport à nous. Mais quand même, il a été difficile d'abandonner ce jardin. Et on doit quelque part, nous aussi, dans notre cœur, on soupire après ce jardin perdu. Jésus-Christ est venu comme l'agneau innocent pour nous donner un vêtement spirituel par rapport à nos péchés. Jésus-Christ nous ressuscitera. Il ressuscitera, il aura le dernier mot sur la mort. Il ressuscitera les croyants, il ressuscitera les incroyables. Jésus-Christ reviendra pour écraser la tête du serpent, selon la promesse que nous avons lue toutes ces dernières semaines. En Apocalypse 20, nous lisons ceci. C'est les visions qu'a l'apôtre Jean dans le ciel, des tableaux qui nous parlent de l'avenir. Je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Le texte poursuit en disant, après cela, il faut qu'il soit lié pour peu de temps. On ne comprend pas tout le plan de Dieu, mais il est certain qu'un jour, Satan finira dans l'étang de feu et de soufre, et ça ne sera fini de son influence sur l'homme, définitivement. Alors, on a préparé un petit chant maintenant, qu'on va chanter a cappella, qui est un chant de, pour terminer, qui est un chant de Alain Barrière, qui est un auteur que peut-être ceux qui sont plus âgés parmi nous connaissent. Et il y a un couplet qui a été rajouté par le pasteur Tim Knickerbocker à la fin. On va vous chanter ça. Je vais vous chanter. Un jardin toujours ouvert, inondé de lumière et des arbres fleuris, c'était le paradis. Il était plein d'oiseaux, buvant dans ses ruisseaux, qui du soir au matin arrosaient le jardin. Perdu par notre faute.
paradis perdu, qui était notre fin. Mais l'homme succomba, alors Dieu le chassa.
Au lieu du jardin,
était l'arbre interdit, à l'homme on avait dit, tu n'en mangeras point. Succomba, alors Dieu le chassa du jardin, en fermant le chemin. Moi, je voudrais retrouver le paradis perdu par notre faute. Ce paradis perdu qui était notre. Mais Jésus vient du ciel partager le chagrin de la séparation, fruit de la rébellion, et la porte à la paix, la réconciliation. Jésus versa son sang pour offrir le pardon. Oui, Jésus nous a rendu le paradis perdu par notre faute. Oui, Jésus nous a rendu ce paradis perdu.